5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Quoi de neuf dans le ciel ? Quelles nouvelles de l'espace ? Vous saurez tout avec Orion Chemin de l'Espace et puis avec vous Jean-Michel.
Bonjour.
Donc nous allons passer en revue l'actualité du mois de novembre. Et dans cette actualité, il y a quand même un dossier qui s'impose, c'est l'anniversaire de la station spatiale.
La station spatiale fête ses 20 ans ce 20 novembre, donc marqué par le plus grand projet international de collaboration de tous les temps, on peut dire un peu grand projet, c'est la construction de cette station spatiale internationale.
Donc 20 ans déjà.
20 ans où le premier module donc russe, Zarya, a été lancé donc par une fusée Proton.
Et c'était donc le 20 novembre.
Le 20 novembre.
Tout a commencé avec un module russe.
Hein. Voilà.
Il y avait eu quand même un petit travail d'approche, les stations Mir, enfin toutes ces...
Ah, alors du côté russe, les stations oui. Mir, les Space Lab américains,
oui.
Bon, puis tout le travail préparatoire de cette station, bon, au début annoncé comme Freedom, hein, et puis qui est devenu tout simplement la Station Spatiale Internationale, ISS.
Donc c'est quand même ce 20 novembre 1998, c'était une date quand même historique, puisqu'en fait c'est la première fois que la Russie et les USA collaboraient, coopéraient sur un projet commun.
Avec le Japon, le Canada et l'Europe.
Voilà, donc la station spatiale est un espace, un lieu partagé par beaucoup de nations.
Alors certains disent c'est l'ONU de l'espace.
C'est l'ONU de l'espace, pas tout à fait quand même.
Pas tout à fait.
Les
enfin,
tickets
voilà.
sont chers quand même.
Voilà.
Alors, et nous allons passer en revue un peu d'abord l'historique de cette construction. Bon, tout démarre avec un petit module russe, mais après, et jusqu'à aujourd'hui, parce que la station, on aura l'occasion de la décrire d'abord, mais il y a quand même des dates importantes qui ont marqué cette aventure.
Oui. Alors, donc, c'est le début de l'occupation hein, de la station, déjà. Nous sommes le 2 novembre 2000, puisque déjà, on a lancé des modules, soit côté russe, soit côté américain. On commence à assembler ce gigantesque mécano.
Donc le 20 novembre, il se passe effectivement l'envoi d'un module. Mais est-ce qu'il y a du monde à bord ?
Non, il n'y a personne.
La
on lance un module.
La première personne
voilà.
ne viendra qu'à l'an 2000.
À l'an 2000, voilà.
Ah, d'accord. Hein. Voilà. Et puis d'autres dates aussi plus tard qui ont marqué cette construction.
Alors il y a beaucoup de dates. On va faire un petit cocorico aussi, hein, puisque le 9 juin 2002, Philippe Perrin, qui devient le premier astronaute européen, a entrepris une sortie dans l'espace.
Première
à bord
sortie
de cette
dans
station.
L'espace, oui.
Voilà. Ensuite, nous avons aussi différents astronautes européens, donc des Italiens, Français, Allemands, etc., Anglais, qui vont eux aussi rester quelques moments dans cette station avec des séjours plus ou moins longs, des séjours courts, des séjours plus longs.
D'accord. Mais elle s'est construite comment ? Elle s'est construite rapidement parce qu'aujourd'hui, on peut la décrire d'abord. Quelle est la taille de l'ISS aujourd'hui ?
C'est à peu près, on évoque souvent la taille d'un terrain de foot.
Un terrain de football, c'est-à-dire plus de 100 mètres de long, pratiquement autant de large, avec
oui,
les panneaux.
Oui, alors on va dire la grande poutre qui soutient la station, hein, ce qu'on appelle le truss, elle fait 109 mètres 50.
109 mètres, 110 mètres. Donc voilà. 110 mètres, voilà, c'est quand même un beau véhicule.
Un beau véhicule spatial.
Et puis à partir de ce tronçon central, on va
voilà.
dire, il y a un certain nombre de communications pour aller sur des modules.
Oui.
C'est ça. Et ces modules appartiennent à des États différents.
Alors déjà, les plus importants, c'est la Russie et puis les USA.
Les USA, oui.
Ensuite, on a le Japon, l'Europe.
L'Europe.
Voilà.
C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est
non,
l'Europe.
Non, c'est l'Europe.
Très bien. Et chacun mène des expériences particulières dans ces modules ou bien tout est partagé ?
Alors, il y a des expériences dans chaque module, des expériences propres à chaque nation. Et puis aussi, il y a des modules partagés.
Hein. Voilà. D'accord. Donc, c'est une taille importante, un terrain de football qui tourne autour de notre tête.
On va dire l'altitude moyenne, c'est 400
km. 400 km environ.
Une orbite pratiquement circulaire.
Oui.
En 92 minutes pour faire le tour de la Terre.
Voilà, donc dans une nuit d'observation, on peut l'avoir passé deux fois sans aucun
ça
problème.
Ça peut être deux fois. Voilà.
Voilà. Hein,
donc suivant aussi la date, hein, parce qu'il y a des passages des fois sur la France. Et puis la Terre tourne, la station tourne, et une inclinaison de 53 degrés. Donc voilà.
Voilà, il y a des tables, d'ailleurs peut-être même que sur le site d'Orion, on peut signaler.
Alors on mentionne parfois les grands événements
voilà,
de la station spatiale.
Voilà, donc voilà pour la taille. Ensuite, c'est une masse importante, parce qu'il faut emmener quand même tous ces kilos à 400 km au-dessus de notre tête.
Alors, on a monté beaucoup de choses. La masse aujourd'hui, on l'évalue à 500 tonnes.
500 tonnes.
400-500 tonnes. Alors, parce qu'on monte et on descend en permanence du matériel. Il y a des choses qu'après qu'on redescend ou des choses qui se consument dans l'atmosphère. Donc, on évalue, voilà. Je peux pas vous le dire au gramme près, hein, puisque
oui,
je crois que personne ne le sait.
Retenons cette idée.
Et je vous ai une petite anecdote. Puis cette semaine, donc un astronaute qui aborde la station spatiale a trouvé dans un placard des disquettes. Des disquettes qui datent du début de la construction spatiale.
Des disquettes, c'est-à-dire avant le CD.
Avant les clés USB et tout ça. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont rangées des fois, puis on ne sait plus trop bien où elles sont. Puis, de temps en temps, on fait le ménage, on trouve des choses.
Donc, en 20 ans, l'ISS a subi l'évolution, subi ou profité.
Profité de l'évolution technologique, dont elle est quand même un acteur principal.
Bien sûr. Voilà, donc différents modules, différents pays. Cette masse est importante puisqu'en fait, il a fallu monter 500 tonnes. Ça s'est fait en plusieurs fois.
En plusieurs fois.
C'est quoi la masse moyenne d'un lancement pour construire l'ISS ?
On va dire entre 16 et 20 tonnes, en étant plus près de 16 tonnes, voilà, en orbite basse. À chaque fois.
On peut monter 16 tonnes.
Avec une fusée, donc soit une fusée russe, soit les navettes spatiales américaines de l'époque.
D'accord, taille importante, masse évidemment très très importante, tout le monde participe, plusieurs modules. C'est donc la station spatiale internationale qui a 20 ans ce mois-ci. Donc, la station spatiale internationale a 20 ans ce mois-ci, au mois de novembre. De multiples lancements, différents lanceurs de différents pays, en particulier des fusées russes et des fusées américaines.
Oui, et qui continuent d'ailleurs. Hein, ça continue, on continue à monter des petits modules maintenant, des très légers, mais on en rajoute sans arrêt. Hein.
Voilà.
Alors, au début, ben, effectivement, les fusées Proton, les navettes spatiales américaines vont participer, à la base de cette station.
Voilà, donc c'est quand même des gros lanceurs, des lanceurs importants, puisqu'on parlait de 16 tonnes lancement moyen.
Oui.
Donc, effectivement, alors les navettes, effectivement, on se souvient, elles ne sont plus en service actuellement.
Oui, c'est un regret, hein, je veux dire, un regret pour tous ceux qui ont pu voir voler ces navettes, parce que c'est un objet fabuleux. C'est une fusée au départ. Hein, et ça revient, c'est un avion. Il y avait tout dans la navette.
Alors nos jeunes auditeurs qui sont fans de Lego ne souviennent peut-être pas avoir vu voler les navettes. Par contre, ils en font beaucoup en Lego, hein, des véhicules.
Ça existe en maquette, ça existe en jeu. La navette a été déclinée sur beaucoup de choses.
Voilà, donc ce sont essentiellement ces deux lanceurs qui ont marqué la construction.
Dire essentiellement, la base, oui.
Bon, aujourd'hui, le gros œuvre est terminé, les masses importantes ne sont plus tellement lancées, on va dire.
C'est de la maintenance.
C'est de la maintenance. Voilà, le gros œuvre est terminé, on est dans le second œuvre, voire dans l'équipement de la maison.
Ouais.
Voilà, très bien. Beaucoup d'astronautes, finalement, depuis 20 ans aussi, sont passés par l'ISS.
On va dire qu'aujourd'hui, la majorité des astronautes russes, américains, européens et d'autres nations font des petits séjours donc, dans la station spatiale. Si on estime qu'aujourd'hui, depuis Gagarine, plus de 1000 personnes sont montées dans l'espace, dont 550 et quelques... parce que certains y sont allés plusieurs fois.
Donc, voilà, donc on a 550 personnes.
Plus de 550 personnes, oui, qui sont allées dans l'espace.
Qui ont séjourné une fois ou plusieurs fois dans l'ISS.
Dans l'ISS.
Et de plusieurs jours. Enfin, ça
alors, je pense à un astronaute français qui n'est pas connu, c'est Jean-Jacques Favier. Il a fait 17 jours. C'est un séjour très court.
Voilà. Et le séjour le plus long, enfin, le séjour moyen aujourd'hui, c'est environ 6 mois.
C'est 5 mois et demi, 6 mois.
5 mois et demi, 6 mois.
Sauf, ça peut être retardé quand il y a des soucis, comme en ce moment. Ils ne sont que 3 actuellement, donc c'est un petit peu prolongé. Mais normalement, début décembre, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Donc, 550 personnes sont montées, effectivement. Alors, des hommes, des femmes, bien sûr, oui. de tous les pays. Oui. Bien entendu, les pays participent effectivement à ce programme scientifique. Donc, le ticket pour aller dans l'ISS pour l'Europe, par exemple, oui. Ou pour la France en particulier, effectivement, ce n'est pas donné.
C'est cher.
C'est pas, oui. Et donc, notre dernier astronaute, c'est Thomas Pesquet.
Thomas Pesquet.
Qui est resté plus de 6 mois, enfin 6 mois.
Voilà, ouais, ce gros séjour, c'est 6 mois en moyenne.
Voilà, donc, et donc les Français, combien de Français ?
Alors, les Français, ça a été Philippe Perrin, il y a eu Léopold Dehart.
Léopold Dehart, on a une grosse sympathie pour lui et au groupe Orion, parce qu'on a eu l'occasion de partager toute une journée.
Alors, on a passé une journée avec lui, donc c'est quelqu'un qui est cher à Orion. Et surtout, lui, il a participé au module européen, le module qui a été lancé par l'Europe, qui s'appelle le module Columbus. Hein, puisque il y a différents tous ces modules de la station entre Europe, États-Unis, Japon et Russes.
Donc 550 astronautes, dont quelques Français. On peut rappeler leurs noms quand même.
Alors Philippe Perrin, Jean-Jacques Favier, Léopold Lehart, Thomas Pesquet.
Voilà. Donc 4 Français qui sont allés dans la station spatiale, travailler dans l'espace. Oui. Parce qu'on y travaille dans l'espace, en fait. Et puis avant d'y travailler, il y a le voyage. Ça dure combien de temps, un voyage, pour monter dans l'ISS ou pour en redescendre ? Est-ce que c'est le même temps qui...
Alors, suivant les... aujourd'hui, il n'y a plus que ça, un seul véhicule. Il n'y a que le Soyouz qui permet d'y monter. Donc, si les procédures rapides sont appliquées sur les futurs Soyouz, c'est ce qui va se faire. En général, c'est 3 tours de terre et on y va. Donc, ça, vous voyez, c'est relativement rapide.
Donc en temps
3 fois 90 minutes.
3 fois 90 minutes, voilà. Bon, d'accord. Oui, donc en une demi-journée,
on est opérationnel.
Et pour la montée, c'est pareil ?
Alors pour la montée. Pour la descente, eh bien, il suffit de se décrocher. Et en général, c'est 4 à 5 heures pour descendre. Voilà. Alors, parce que là, donc, si on prend vraiment le temps où on part de la station, mais il y a toutes les procédures avant, la révision des checklists, tout ça, c'est des fois ça ce qui prend le plus de temps.
Alors, on va voir effectivement ce que l'on y fait, puisqu'ils ne montent pas que pour du tourisme, ils travaillent également. Mmh. Il y a quelques anecdotes, d'ailleurs, un petit peu rigolotes. Je pense aux marathoniens.
Ah oui, donc... Qui a fait le marathon en 3 heures, Tim Peake, qui a fait le marathon en 3 heures et 35 minutes, donc sur le tapis roulant de la station spatiale.
Voilà, donc
c'est un bon marathonien amateur. Alors, c'est vrai qu'en état d'apesanteur, c'est plus facile.
Voilà, et puis donc effectivement il y a d'autres petites anecdotes. On pourrait parler de la vie à bord, des crayons du petit nounours russe.
Voilà, donc il y a énormément d'anecdotes qui se sont passées dans cette station, des bons moments puisqu'il y a le temps de travail, mais aussi il y a des moments de détente. Hein. Alors petit nounours russe, c'est dans le Soyouz pour le départ, qui permet de voir qu'on est en apesanteur. Toute la recherche qui a pu être faite, par exemple pour parler du crayon, les Américains avaient conçu un stylo qui pouvait écrire un petit peu à l'envers,
hein,
voilà. Et puis bon, il y avait le fonctionnement n'a pas marché. Alors les Russes rigolaient, disaient nous on n'a pas de souci parce qu'on prend un crayon à papier et ça marche. Vous voyez, il y a énormément de choses qui se sont passées dans cette station. Je pense qu'on a monté aussi des flammes olympiques, on a monté des ballons de foot pour la Coupe du Monde, puis on redescend tout ça, des instruments de musique parce que pour ces temps de détente, voilà. Donc les astronautes qui sont en orbite autour de la Terre, à 400 km au-dessus de nos têtes, ont une vie sociale, une vie de détente, une vie de loisir.
Alors, et puis côté travail, il y a quelques expériences médicales, techniques, etc. Donc, on a eu l'occasion de faire des émissions pour présenter ça un peu plus en détail. On peut rappeler effectivement qu'il y a quand même une grosse activité pour la recherche médicale.
Alors, la recherche médicale, des expériences, si on pense aux astronautes qui partaient sur la Lune, ils avaient simplement des pansements, des antibiotiques et quelques cachets contre la douleur. Aujourd'hui, on a quand même à bord de la station un équipement médical qui leur permet d'être parés à plein de choses. De savoir faire des prises de sang, voilà. Donc, et puis de travailler avec des équipes au sol.
équipes au sol sur des expériences
Des expériences médicales qu'on va monter, du travail sur des cellules. Alors ça, c'est vraiment très spécialisé. On va monter, comment dire, on continue l'équipement, on va monter un petit laboratoire biologique qui va être utilisé pour travailler. Et aujourd'hui, on a la possibilité de redescendre des expériences au sol, notamment grâce aux capsules SpaceX.
De la même manière, sur le plan de la technologie, il y a un certain nombre de choses qui sont testées à bord de l'ISS et qui trouvent leur application sur Terre plus tard.
Alors les sorties, les évals, les extravéhiculaires activity, lorsqu'on sort à l'extérieur, il a fallu concevoir des outils légers, avec des petits mousquetons pour ne pas les échapper dans l'espace, des batteries qui tiennent longtemps. Et tout ça, on retrouve après tout l'outillage électroportatif que nous avons aujourd'hui à disposition. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits au niveau de la station spatiale.
C'est-à-dire les téléphones, la communication, tout ce qui peut être léger, portatif,
on teste dans l'ISS. Je veux dire, si on savait tout le nombre de matériel, le nombre d'appareils photo qu'il y en a à la station, c'est énorme, etc.
Et on rappelle qu'elle n'a que 20 ans, cette ISS. Et qu'en 20 ans, il y a eu énormément de progrès technologiques, bien entendu, et des applications qui ont suivi sur Terre.
Et alors, je lirai tout ça aussi à l'évolution de l'informatique, puisque les ordinateurs de la station sont remplacés régulièrement. Au fur et à mesure que la technique progresse au sol, elle est testée dans l'espace, les retours de l'espace sont testés au sol, et tout ça, ça donne de l'élan à tout.
Alors, il y a aussi une activité, en ce qui nous concerne, sur les satellites, sur les lancements de satellites. L'ISS participe à ce largage de petits satellites aussi.
Alors, comme vous disiez, on aménage la maison, donc on rajoute notamment sur le module japonais Kibo, on a un petit tremplin, un petit toboggan qui permet de lancer des CubeSat, ces petits satellites de 10 cm de côté, qui sont montés par les cargos ravitailleurs, et puis à la date prévue, sur l'orbite prévue, avec les gens qui ont commandé ces satellites, on va pouvoir les larguer. Les astronautes ont des procédures de mise en boîte, et puis hop, on passe au toboggan et on
largue
dans
l'espace. Comme le petit poussé avec ses cailloux, il les dépose en passant, c'est
voilà.
Ça. Voilà. Donc voilà, bilan tout à fait positif dans beaucoup de domaines depuis ces 20 ans de fonctionnement de l'ISS. Et maintenant, Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? D'abord, combien sont-ils aujourd'hui à bord de l'ISS?
Alors actuellement, au jour où nous enregistrons, ils sont 3. Début décembre, ils devraient être 6. Et pouvoir passer les fêtes de Noël, je pense, à 6. Le départ de ces 3 qui a été prolongé à cause de l'échec du show du mois dernier, on prolonge leur temps. Le retour, je pense que ce sera début janvier, mais pour l'instant, les dates ne sont pas tout à fait calées. Voilà. Donc, russe, américain, européen.
Alors, est-ce que cette coopération entre les États, notamment les Russes et les Américains, on pense particulièrement à eux, est-ce qu'elle est menacée? Est-ce que ça continue?
Ça continue. Donc, pour l'instant, les conventions signées entre ces différents États prolongent donc l'exploitation jusqu'en 2024.
2024, c'est quand même relativement proche.
C'est relativement proche. Alors, on avait dit 2020, puis on prolonge à 2024. La raison, c'est que si on décidait aujourd'hui d'arrêter cette coopération, qu'est-ce qu'on fait de ce gros module? On ne peut pas le laisser seul à l'aventure autour de la Terre.
Oui, alors que deviendra justement cette masse, cette taille, ce terrain de football qui nous tourne autour des têtes? Qu'est-ce que l'on peut en faire lorsqu'il a...
C'est une vaste question qui est débattue, je ne veux pas dire journellement, par les différents États, mais qui pose quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut séparer les modules de chaque État? Ça paraît difficile. Le module Zarya Zvezda du côté russe, Harmony, Destiny, Unity du côté américain, le Columbus européen, le Kibo japonais. Est-ce qu'on peut... Chaque pays reprend son outil? Non, c'est pas possible.
Est-ce que le destin d'un petit satellite ou d'un outil ou d'une petite masse qui tourne autour de la Terre, c'est effectivement de l'entraîner dans une descente mortelle, en fait.
Dans les couches de l'atmosphère, ça va se consumer.
Là, le problème, c'est qu'on a une masse de 500 tonnes.
Il n'est pas question que
ça se consume en l'état. Il faudrait diviser le problème.
On peut pas, comme je le dis, démonter tout ça. Alors, il y a aussi les Russes qui envisagent aussi de garder une partie de leur module et d'en rajouter un module Nyoka, notamment, qui devrait être monté, mais qui n'est toujours pas là, vous voyez. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'attente, dans l'expectative.
Eh bien, on suivra tout ça dans la mesure où on le peut. Thank you. Alors un petit point, Jean-Michel, sur les lancements du mois de novembre. En particulier, bon, l'ISS a été
ravitaillé,
mais il y a trois quand même lancements un petit peu particuliers qui montrent que quand même tout ça est très international. D'abord l'Inde qui a lancé.
Alors l'Inde, on le rappelle souvent dans cette émission, qui est une grande puissance spatiale, hein, qui est capable de lancer vraiment des charges lourdes en orbite GTO, c'est-à-dire géostationnaire à 36 000 km. Donc un lancement cette semaine donc du GLSV Mark III, c'est son deuxième lancement. C'est un gros lanceur de 43 mètres de hauteur, 630 tonnes, et qui est capable de lancer des charges de 4 à 5 000 kilos en orbite géostationnaire.
Voilà, donc gros lanceur, les Indiens qui ont fait ce lancement-là,
et qui eux envisagent un jour de lancer des hommes. Hein.
Oui, bien sûr. Voilà. Donc on aura l'occasion de reparler sur la conquête par les hommes en prévision. SpaceX, toujours SpaceX.
SpaceX, 18e lancement de l'année, donc pour un satellite qatari, voilà.
SpaceX, c'est un opérateur privé.
Privé, américain.
Américain, 18e lancement, donc. Pour le Qatar. Et puis Rocket Lab, ça c'est original aussi.
Ah, c'est original parce que c'est une petite fusée en matière composite. Donc Rocket Lab, c'est une société américaine installée en Nouvelle-Zélande et qui lance alors des petites charges en orbite basse, on va dire jusqu'à 500 km de hauteur. Hein. Donc une société qui envisage de se développer. Bon, le PDG de Rocket Lab disait que s'il est à terme, si tout marchait bien, il pourrait faire un lancement tous les 3 jours. Vous voyez, donc fusée composite, très petite, lance 40, 50 kilos. On lance soit des gros modules, soit des petits modules en orbite basse et très, très rapidement. Donc, puisqu'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, tout le monde a son téléphone portable. Est-ce que
demain, tout le monde a sa petite fusée
ou son petit satellite
pour partir en week-end. Bon,
voilà, on peut ironiser là-dessus. Hein.
Voilà, c'était donc l'actualité.
Oui, et j'en rajouterai un dernier.
Ah oui, pardon.
Parce que hier, la petite fusée Vega C, hein, de la fusée européenne, oui, a réussi donc un lancement de Kourou en Guyane pour un satellite du Maroc, hein, Mohamed 4, donc satellite d'observation.
Très bien. Voilà. Très bien. Et pour terminer, comme chaque mois, quelques conseils de lecture. Enfin, en tout cas, ce mois-ci, un livre. Et puis, chose originale, un jeu. Alors, le livre d'abord.
Alors, le livre, c'est dans les éditions des Petits Futés. Il y a énormément de livres chez le Petit Futé. Là, c'est Astrotourisme en France et dans le monde.
En France, dans le monde, en fait, et qui nous invite à visiter, enfin, qui nous propose des lieux
d'observation, privilégiés, donc pour observer les étoiles,
pour observer le ciel,
et notamment les zones où il y a moins de pollution lumineuse. Donc tout ça est répertorié dans ce guide du Petit Futé.
Ouais, j'espère qu'il y a la Haute-Loire, parce que la Haute-Loire c'est beau aussi la nuit. Si elle ne l'est pas, il faudra peut-être leur écrire, en tout cas. Et puis alors, puisque Noël arrive, bien entendu. Un jeu de société, ça c'est original, qui parle de l'espace.
Il existe des jeux de société sur l'espace, mais celui-ci donc vient de paraître, car il invite à voyager. Donc Ganymède, c'est un satellite de Jupiter,
oui, hein,
donc c'est le nom du jeu. Donc on invite, il faut assurer le transit d'astronautes de la Terre vers Mars, puis sur la Lune, puis sur Ganymède, et peut-être après aller à la conquête d'éventuelles exoplanètes.
Voilà, donc le jeu s'appelle Ganymède, et le livre Astrotour. C'est ça.
Voilà.
Eh bien, merci à tous de votre écoute, de votre fidélité. Noël approche, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine. Au revoir à tous.
Voilà, au revoir.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.